Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Comment se défendre face aux titans d'Internet? Le combat est-il déjà perdu d'avance? Quelles sont les armes des consommateurs et des citoyens face à la puissance jamais égalée de Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, les GAFAM, les fameux 5 cavaliers qui ont pris d'assaut notre vie sociale, privée, intime, professionnelle, publique, 5 cavaliers qui ont bien sûr facilité notre quotidien, mais qui ont également capté notre attention, notre temps de cerveau disponible, nous ont rendu accro à leurs outils et services numériques. Comment a-t-on pu accepter cette servitude volontaire sans se défendre? Est-il encore possible d'échapper à cette emprise? Quelles sont les pistes pour jouir d'un Internet libre et sans entrave? Nos invités vous délivrent quelques conseils pour reprendre un peu de pouvoir face aux GAFAM. Avec nous ce matin, la journaliste Anne-Sophie Jacques et le consultant Maxime Gage. Et vous, comment vous défendez-vous face aux géants d'Internet? Au contraire, avez-vous aboli toute velléité d'autodéfense numérique en faisant confiance aux GAFAM? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Vers 11h25, vous retrouverez la chronique de la combattante Julia Foyce pour sa chronique Pas son genre. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébé.
Bonjour Anne-Sophie Jacques.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante. Bonjour Maxime Gage.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, consultant, indépendant également, et vous publiez ensemble aux arènes « Déclic » ou « Comment profiter du numérique sans tomber dans le piège des géants du web ». Et dans ce livre, vous militez pour un Internet libre, sans surveillance et sans dépendance. C'est encore vraiment possible, Anne-Sophie Jacques ?
Oui, c'est encore vraiment possible. En fait, c'est toute la découverte de ce livre quand on a commencé la rédaction avec Maxime. C'est de réaliser que déjà à partir du constat que vous venez de dresser en introduction, effectivement, on est quand même très coincé vis-à-vis de ces géants du web, vous l'avez dit, hein, qui nous manipulent, qui créent des services qui nous rendent complètement accros.
Mais qui ont également amélioré notre quotidien.
Alors certes, ils ont amélioré notre quotidien, mais à quel prix c'est l'objet du livre aussi et du constat que l'on fait. Et surtout dans notre enquête, ce qu'on a réalisé, ce qu'on n'avait pas encore vu avant de commencer, c'est que il y a énormément de gens qui se battent pour les libertés sur Internet. Il y a une communauté qui est énorme, avec un enthousiasme qui est fou, et pas depuis hier, hein, depuis au moins 30 ans. De toute façon, le web, hein, c'est tout jeune, ça a à peine 30 ans, enfin, c'est rien du tout, c'est une grosse génération.
Maxime Gage.
Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit quand même, alors c'est vrai que ça a amélioré certaines choses, et ça nous fait peut-être gagner du temps en termes d'efficacité. Maintenant, on voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui cherchent aussi à faire des vacances détox ou à se déconnecter de plus en plus. Donc c'est aussi ça qui en partie nous a poussé à la nécessité d'écrire ce livre. C'est que au fur et à mesure que cette défiance monte également au sein du monde des technologies et puis de la part des usagers, il y a une forme de défiance qui se construit autour de ça. Et l'idée, c'est aussi de dire qu'il faut peut-être pas tout jeter, mais qu'en fait, à l'intérieur, dans le numérique, il y a aussi d'autres façons d'envisager le numérique, d'autres façons de le concevoir pour que ça respecte aussi les citoyens, nos libertés et notre vie privée.
Rappelez-nous quelle est la puissance actuelle des géants du web que l'on appelle donc les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Ces GAFAM n'ont jamais autant concentré de pouvoir dans l'histoire de l'humanité.
Oui, alors les GAFAM, c'est étonnant, mais quand on regarde en termes de capitalisation boursière aux États-Unis, Google, Amazon, Microsoft, Apple sont à 1000 milliards de dollars. Facebook est autour de 500, 530, je crois. Pour une comparaison, c'est Exxon, donc est à 250 milliards. Donc,
la compagnie pétrolière.
Voilà, la compagnie pétrolière. Donc on voit qu'on est passé dans une autre phase où finalement, bien sûr que l'extraction de minerais sur la planète continue, mais le nouveau minerai à extraire, je dirais aujourd'hui, qui a le plus de valeur, c'est la donnée. Et ce minerai, il est extrait à travers toutes ces plateformes que l'on utilise chaque jour.
Sans tomber dans la paranoïa, peut-on dire que ces géants du web ont pris le pouvoir dans nos vies, que nous sommes devenus tous dépendants de leurs outils et services?
Alors c'est vrai qu'on est dépendant, mais comme le disait Maxime, ce qui va intéresser ces géants qui sont devenus énormes, c'est notre donnée. en fait. C'est ce qui nous appartient. C'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on aime. Et c'est ça qui les intéresse. Et les outils, peut-être qu'ils nous rendent service, mais ces outils sont là pour capter le plus de choses sur nous. Donc on réalise que en fait, il y a cette grande phrase qui est connue aujourd'hui, que quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. C'est que nous ne sommes plus qu'un produit. Il n'y a plus que ça qui les intéresse. Et c'est là où il faut effectivement faire un pas de côté et de se dire qu'on n'a pas envie d'être juste un consommateur à la solde de ces géants qui ont pris un pouvoir énorme et qu'on peut faire autrement.
Nous autres citoyens et consommateurs ne sommes pas à armes égales. C'est un peu comme si sur un ring, Mike Tyson combattait contre Jean-Claude Duss débronzé. C'est un peu ça, le rapport de force.
Ouais, c'est vrai qu'on pourrait parler d'un combat du pot de terre contre le pot de fer, mais en fait, il y a des combats de pot de terre qu'il faut mener. Je pense que c'est vraiment capital et je pense qu'on est pile au moment là dans l'histoire de ce web où on peut, nous citoyens, essayer de faire basculer les choses et rejoindre un mouvement, que je le disais tout à l'heure, qui est ancien et sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut s'inspirer. Il y a des gens, on peut parler d'Edward Snowden qui est assez connu du grand public, qui a révélé en 2013 que les services secrets américains surveillaient l'ensemble des compatriotes d'Edward Snowden. Il surveillait toute la population, voire toute la population du monde, et ils se sont servis pour cela des plateformes que sont Facebook et compagnie. Et on peut s'inspirer de ces gens, voilà, qui ont fait ces révélations, qui se sont privés eux-mêmes de liberté pour sauver nos libertés à nous.
Mais le problème, c'est que nous sommes tous très accrochés. Nous sommes une grande majorité à se considérer comme dépendants de nos objets connectés. Pour beaucoup, oublier son smartphone ou ne plus avoir de batterie, c'est une source d'angoisse. Avec cette peur de rater quelque chose, hein, c'est le fameux FOMO, Fear of Missing Out, en français ça s'appelle, je crois, nomophobie. Mm-hmm. On est tous accrochés, Maxime Gage.
Alors, oui, c'est vrai que c'est devenu indispensable et certains peuvent même le décrire comme presque une extension de notre corps. Après, est-ce que finalement c'est son caractère indispensable qui est si problématique? Notre frigo ou notre machine à laver nous est indispensable, pour autant ça semble pas nous poser autant de problèmes que le téléphone. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on avait à la base un outil technologique, et donc un outil, c'est à notre service. Et au départ, l'informatique, c'était effectivement pour nous simplifier la vie et faciliter un certain nombre de choses, découvrir, faire de nouvelles découvertes scientifiques. Et le web, à la base, c'était ça, c'était un espace de partage de la connaissance. Sauf que, voilà, il y a eu cette bascule avec les modèles économiques qui a été découvert notamment par Google à travers la captation de données et qui s'est généralisé maintenant à l'ensemble des produits en ligne qui s'adressent au grand public. Et par contre, j'aurais tendance à dire, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le livre, et c'est aussi ça, c'est que on aimerait un peu dire que on n'est pas bloqué. Et contrairement à peut-être avec, si vous voulez, dans d'autres secteurs où effectivement on est très dépendant de grosses industries et où effectivement les petits pas permettent de changer les choses, mais pas forcément tout. Avec le numérique, si vous voulez, on change d'application. Si on passe, on parle par exemple à l'intérieur du livre de Signal par rapport à Messenger.
Rappelez ce qu'est Signal.
Donc Signal, c'est une application de discussion instantanée qui est chiffrée, qui est recommandée par Edward Snowden. C'est pas très compliqué de le faire, et une fois qu'on le fait, eh bien on invite aussi ses amis à le faire. Et là, collectivement, on peut retrouver déjà de l'espace en termes de vie privée.
En 20 ans, nous avons assisté à une extension du numérique dans tous les domaines de notre vie, nous rendant disponibles, flexibles, multitâches, réactifs tout le temps, jour et nuit. Tout cela a des conséquences sur nos vies bien réelles. Anne-Sophie Jacques, nous sommes devenus impatients. Et puis tous ces outils et services ont pompé notre attention. Ce sont des vampires numériques pour vous?
Mais en fait, vous avez dit tout à l'heure qu'on était tous accros, ce qui est vrai, on est quand même assez tous accros de notre petite machine, mais c'est pas un hasard en fait. Faut savoir que ces géants là embauchent des armées de psychologues, de gens qui étudient la façon dont notre cerveau fonctionne pour faire en sorte qu'on y reste le plus longtemps possible. Et en fait, quand on a commencé ce livre, on se disait, c'est un peu comme si on réalisait que matin, midi et soir, on mangeait des plats surgelés, enfin des plats genre même peut-être des pizzas, des hamburgers, des frites, et on buvait du soda, et que en fait, ben on pouvait aussi commencer à refaire de la cuisine, à retourner sur le marché le matin, à découvrir d'autres aliments, à se réapproprier des recettes qui ont été accaparées par ces géants qui en font un business de fou.
Maxime Gedge, ces géants du web, ce sont des vampires numériques qui vident nos capacités de concentration, d'attention.
Oui, alors j'aurais un peu tendance à tempérer cette vision un peu diabolisante, on va dire, des géants. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de ce qu'on s'est attaché à expliquer dans le livre, c'est qu'on a essayé de déplier tout ça. C'est aussi le résultat d'un mode de financement particulier dans le monde des startups qui est de pressions économiques aussi. Donc est-ce que c'était forcément une volonté à la base de capter nos données?
Non, je crois
pas. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que voilà, économiquement, c'est ce qui s'est retrouvé être le plus rentable. Et c'est pour une entreprise, effectivement, comme Google, qui sont des entreprises lucratives, effectivement, la recherche, c'est d'augmenter le profit. C'est pour ça qu'on regarde aussi dans le livre des alternatives d'organisation autour des associations, de coopératives, aussi d'autres entreprises, mais qui prennent des modes de structuration différents, qui cherchent pas forcément à lever des fonds par les leviers classiques, pour essayer de s'extraire de ces pressions, effectivement.
Au départ, Internet fut d'abord un immense terrain de liberté, Maxime Gedge.
Oui.
Et à la soif de connaissances, soif de connaissances et de liberté, s'ajoute très vite la soif de profit.
Oui, c'est vrai que c'est comme si on avait découvert un immense territoire, un territoire, mais alors pour le coup très foisonnant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos premiers pas sur Internet quand on découvrait, quand on découvrait les blogs, les sites d'info faits de briques de broc. Il y avait des choses très très inventives et c'était vraiment un endroit conçu pour qu'on partage la connaissance. Et il faut bien avouer qu'aujourd'hui la connaissance, elle est plutôt capturée, elle est plutôt enfermé et il est peut-être temps de se dire que Internet c'est un bien commun. Alors je dis pas que à ses départs le web était merveilleux, était fabuleux, mais c'était comme un pays très complet avec des choses plus ou moins belles, plus ou moins fortes, mais ce pays-là en fait il nous a été confisqué.
Maxime Gedge.
Oui, enfin pour tirer même la métaphore, je dirais qu'il faut peut-être décoloniser en fait ce territoire des GAFAM et retrouver notre indépendance. Si vous voulez, c'est fort. Après, ça dépend de chacun. Qu'est-ce qu'il entend par la connotation qui va être liée à ce terme. Mais aujourd'hui, on n'est pas indépendant. Si vous êtes sur Messenger pour parler à vos amis, donc Messenger qui est l'application de messagerie instantanée proposée par Facebook. Si un ami à vous veut communiquer avec vous, que vous êtes sur Messenger, eh bien cet ami obligé de se soumettre aux conditions générales d'utilisation de Facebook pour pouvoir communiquer avec vous. C'est pas du tout le cas avec, par exemple, les opérateurs téléphoniques. Si demain Orange vous disait que vous ne pouvez plus appeler ni envoyer texto à des personnes qui sont chez Free, Bouygues ou autre, eh bien ce serait tout à fait scandaleux. Pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine du numérique avec ces géants.
Avec quelles recettes les GAFAM ont-ils connu une expansion et une telle domination au cours de ces 20 dernières années?
Avec quelles recettes? Comme Maxime le disait tout à l'heure, c'était vraiment sur le fait de comprendre que plutôt que de nous vendre un service, on allait proposer des choses gratuites sur Internet, un service gratuit, et que en échange, ce qui était plus, ce qui allait nourrir leur modèle économique, c'est la donnée. Et la donnée, c'est de savoir ce qu'on fait. Mais en fait, la donnée, c'est même plus intime que ça. C'est-à-dire que là, on va chercher au fond de nous, au cœur de nous, de nos émotions, de nos pensées, c'est ça qui est dangereux en fait.
Et il y a aussi avec maintenant on parle beaucoup d'intelligence artificielle qui ne sont que la suite de ces algorithmes qui deviennent juste de plus en plus perfectionnés, c'est-à-dire qu'ils ont tellement de données que maintenant le but du jeu, si j'ose dire, c'est
de prédire
nos prochains comportements. On voit bien que ça peut avoir tout un tas d'applications effectivement dans le monde commercial.
Comment se défendre face aux géants du web, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Amazon? N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000. Alexia Rivière, Julia Macarez et Clément Martin m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Claire Destacan. Belle journée à l'écoute de France Inter.
J'ai crevé l'oreille. j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la Roquine Carmélite. La mère sup m'a vu venir, Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Oh oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Puis y a un truc qui fait masse. Cours, on peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. Le feuilleton à la place. Oh oh, vertige de l'amour. Tu chopes des suies à Saigon. Je m'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je me découvre. T'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh, vertige de l'amour. Mon légionnaire attend qu'on chante. Et la tranchée vient d'être peinte. Écoute, si ça continue, je me découvre.
Alain Bachung, Vertige de l'amour.
Ouh là là, je capte mal la Wi-Fi.
Grand bien vous fasse.
Peut-être redémarrer la pasta box.
Ali Rebéi.
Ah mais tu sais que moi aussi je vais sur le Facebook.
Sur France Inter.
10h23, comment se défendre face aux géants d'Internet, les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Toutes vos questions au 01 45 24 7000.
Cette nuit, Léa a fait un cauchemar. La ville était contrôlée par un géant tellement partout, dans les rues, dans les existences, que c'était... comme s'il avait sucé la vie et le cerveau des gens. Léa a rêvé de l'ogre GAFAM. GAFAM, c'est un mot qui reprend la première lettre de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, les marques les plus cool du monde. Pourquoi parler d'ogre alors ? Parce que GAFAM désigne plus largement ces géants des technologies à ce point importants dans l'économie et dans nos vies qu'ils en deviennent inquiétants. Car ce sont d'abord des entreprises qui cherchent à faire du profit. Au début, le rêve était cool. Le géant, appelons-le Georges, était prêt à tout pour aider tout le monde. Besoin d'un bon resto ? Georges avait la réponse. Et en plus, il disait comment y aller. Et pour acheter des livres, des vêtements, de la musique, n'importe quoi, il était encore là. Et puis le rêve devenait angoissant. Le père de Léa est commerçant. Si Georges ne parlait pas de lui, il n'avait pas de clients. À la fin, on réalisait qu'en échange de ses services, Georges avait pris le contrôle. Il vous suçait le cerveau, les infos perso et toute votre mémoire. Et le pire, c'est qu'il vendait toutes ses données à des publicitaires, ou mieux, à des hommes politiques, pour manipuler Léa. Le rêve était devenu un cauchemar. C'est ça, le géant GAFAM, un monstre qui prend tout l'oxygène, qui empêche toute diversité.
Extrait des clés du numérique, écrit et narré par notre camarade Bruno Duvic. Alors Maxime Guedj, Anne-Sophie Jacques, vous publiez donc Déclic, comment profiter du numérique sans tomber dans le piège des géants du web. Vous l'avez dit tout à l'heure, les GAFAM collectent nos données pour analyser nos comportements, mais désormais, il faut prédire nos désirs, synonyme de nouveaux marchés à conquérir. Les GAFAM ont largement investi un domaine comme la recherche cognitive. Quels sont les grands domaines de recherche, Maxime Guedj ? Je pense aux biais cognitifs.
Alors,
un biais cognitif, je rappelle que ça tord la réalité en l'analysant avec des raisonnements irrationnels et illogiques. Et les GAFAM investissent beaucoup dans ce domaine-là.
Oui, alors c'est vrai que si vous voulez, c'est le design des interfaces va définir donc des interfaces qui sont donc c'est l'écran qu'on voit quand on utilise toutes ces applications va définir nos capacités d'usage mais aussi influencer potentiellement nos comportements. Et donc pour l'étape qui a suivi et qui effectivement devient de plus en plus étudiée au sein de cette industrie, c'est de comprendre même à un niveau psychologique, si je vais mettre le bouton de notification, si je le mets en rouge, en vert, en bleu, ça va agir différemment sur l'usager. Et donc pour revenir au niveau des biais cognitifs, il y en a tout un tas qui ont été très bien listé par l'économiste Daniel Kahneman qui a eu le prix Nobel d'économie pour ça, qui les a extrêmement bien listés. Et c'est important de les connaître pour s'en sortir.
Le biais de confirmation qui consiste à privilégier la recherche d'informations qui confirment nos idées préconçues.
Voilà. Exactement. Donc ça, c'est parfait pour les algorithmes aujourd'hui qui vont trier toutes les informations qu'on a dans nos fils d'activité, que ce soit sur Facebook ou Instagram, vont continuer de nous fournir des informations qui restent dans notre confort et qui vont aussi avoir tendance à renforcer encore plus ce biais cognitif et à nous réduire nos capacités finalement à penser les choses même autrement ou à voir qu'il y a d'autres possibilités de voir les choses.
Anne-Sophie Jacques.
Oui, on l'entendait dans l'extrait tout à l'heure, on a entendu le mot manipulation, mais on en est vraiment là. Et il y a eu un scandale qui a été alors formidable pour justement comprendre ce principe de manipulation. C'est le scandale Cambridge Analytica, découvert en 2018 grâce à un lanceur d'alerte. Cambridge Analytica, c'est le nom d'une agence marketing en Angleterre et qui l'avouait sur son site que son but, c'est de prendre les données des utilisateurs notamment de Facebook, et puis de se servir de ces données pour pour leur donner des consignes de vote. Et en l'occurrence, le scandale de Cambridge Analytica nous a montré que l'élection de Trump a été favorisée par toute cette armée de marketeurs qui ont ciblé des gens qui ne savaient pas encore pour qui voter, mais qui ont reçu sur leur fil Facebook tout un tas de vidéos qui leur ont fait voter Trump finalement, façon de voir pour eux le monde selon Trump. C'est assez inquiétant.
Et vous rappelez dans votre livre que les GAFAM dépensent des sommes considérables pour acheter ou inventer des services qui ont pour but de collecter toujours plus de données.
Oui, c'est ça. En fait, à chaque service offert, on peut nous dire « Ouais, chouette, Google sort un nouveau service » ou « Chouette, Google rachète une grosse entreprise, ils en rachètent énormément, ils ont énormément de moyens. » Et en fait, non. Tout ça a pour seul but de faire en sorte d'extraire toujours plus de données. En fait.
Bonjour Hélène, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez d'où Hélène ?
J'appelle de Marseille.
Alors, comment faites-vous pour vous défendre face à ces géants du web, avec vos petits moyens ?
Bon, en fait, les géants du web n'ont pouvoir que parce que nous leur en donnons, finalement, parce que nous utilisons leurs services. Et il y a des alternatives à Facebook, il y a Diaspora, par exemple, à Google Chrome, il y a des navigateurs libres. Enfin, il y a à côté des géants, il y a énormément d'alternatives qui existent, qui ont été mises en commun, qui ont été créées de façon collaborative et qui sont créées pour justement éviter la captation du pouvoir par un géant, privé, quoi. Donc, il y a un site qui existe qui s'appelle dégooglisons-internet.org et qui liste la totalité des alternatives à tous les logiciels possédés par des GAFAM. Et c'est super intéressant.
Comment vous faites au quotidien ? Donc, donnez-nous un exemple, Hélène.
Bah, un exemple, je n'ai pas Google Chrome, j'utilise Quant, je ne vais jamais faire de recherche sur Google, je vais sur DuckDuckGo, j'ai changé en fait tous les logiciels de mon ordinateur, je suis d'ailleurs sur un site libre, Linux, c'est pas Microsoft par exemple, je fais attention à ne pas utiliser tout simplement les services des GAFAM.
Anne-Sophie Jacques.
Oui, très très intéressant le témoignage d'Hélène. C'est bien, elle a vraiment compris une chose fondamentale, c'est que si ces géants existent aussi, c'est parce qu'on les utilise et qu'on peut très bien utiliser des outils qui existent par ailleurs. Alors, la cité des Googleisant Internet, c'est une initiative de l'association Framasoft qu'on vous engage à découvrir, hein, qui est une association qui est super. On en parle beaucoup dans le livre, qui permet et qui donne accès à tout un tas d'outils qui sont libres. En fait, c'est des outils simples qui vont pas récupérer nos données, qui vont pas nous pister, qui vont pas nous surveiller. Ils sont là, j'attends juste qu'on les prenne en fait et qu'on s'en empare.
Merci beaucoup Hélène de nous avoir appelé. Alors, il n'y a pas que d'affreux gauchistes ou libertaires qui tirent la sonnette d'alarme. Certains piliers de l'industrie du web s'alertent. Je pense à Roger McNamee, l'un des premiers investisseurs de Facebook. Pour Roger McNamee, Facebook est en train de tuer, dit-il, la démocratie. Et il dénonce également le comportement irresponsable, selon lui, d'Alphabet. Alphabet, c'est la maison mère de Google. C'est fort ce que nous dit Roger McNamee.
Oui, tout à fait. C'est extrêmement fort. Et puis c'est, si vous voulez, à l'intérieur de cette industrie, il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte. Et voilà, c'est aussi, enfin, moi j'y ai cru aussi, aux promesses des startups et de ce milieu-là. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est extrêmement compliqué. Les pressions économiques qui sont en place ne permettent difficilement de trouver d'autres modèles. Et c'est pour ça qu'on parle de ces autres outils, de ces autres initiatives. Et je remercie beaucoup Hélène d'avoir parlé de ces outils qu'on liste notamment dans le livre et que j'espère que de plus en plus de gens vont découvrir.
Et pour Sean Parker, actionnaire, toujours actionnaire de Facebook et premier président de Facebook, il déclare que Facebook rend délibérément ses utilisateurs accros et il s'inquiète des comportements encore inconnus sur les enfants.
Oui, Anne-Sophie Jacques. Il faut les écouter, hein, parce que eux ont fait vraiment partie de la machine, ou en font même peut-être encore partie. Et quand on parle de danger pour la démocratie, ce ne sont pas des mots en l'air, il faut les prendre très très au sérieux. Quant à ce que l'utilisation de nos écrans sur nos enfants peut engendrer, on n'en a pas encore trop pas trop d'idées, mais j'imagine que ça va être très documenté. Mais quand il compare Snapchat, qui est une messagerie pour une application pour les ados, qui est très 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 utilisée. Mon fils passe un temps fou sur cette
appli. Message est passé.
Ouais, mais j'espère qu'il lira le livre. Non, on en parle souvent. Quand il compare Snapchat à de l'héroïne.
Et il vous dit ça?
Non, pas mon fils.
Ah. Non, c'est Justin Rosenstein de chez Facebook qui compare le pouvoir addictif de Snapchat à l'héroïne et il en sait quelque chose. C'est lui qui a inventé le bouton like sur Facebook.
Ouais. Et, voilà, donc, ce sont pas des mots en l'air en fait. Et alors c'est vrai quand on en parle avec les parents, qu'on leur dit tu sais, ils comparent à de l'héroïne et les parents disent bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ils sont devant leurs écrans et c'est assez étonnant, assez inquiétant aussi qu'on fasse pas le rapport et qu'on dise pas, mais attends, tu vois, si ton fils avait une seringue là dans la chambre, est-ce que tu laisserais la seringue à portée de main? Non, on le fait pas encore. Mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui est en train d'arriver et qui va porter tout ça.
Comment agissez-vous, vous, avec votre fils?
Je suis pas un bon exemple parce que puis il est grand maintenant, donc c'est pas facile de lui piquer son portable. Ça aurait d'ailleurs aucun sens. Mais non, j'ai assez confiance en fait en cette génération qui arrive, qui est effectivement toujours plantée devant son écran. Mais j'ai assez confiance en elle sur le fait de se dire que ils peuvent aussi récupérer énormément de liberté en s'en débarrassant, que eux aussi ont le choix de faire autre chose. Et voilà. Et je pense que s'ils doivent passer par cette étape complètement accro au téléphone, à le regarder jour et nuit, je pense qu'ils vont passer aussi par l'étape de « Ah, il y a un autre monde vachement plus libre, vachement plus sain, où je récupère de mon temps de cerveau, et ce monde-là, il va être génial à investir. »
Est-ce que le règlement général sur la protection des données est vraiment utile? Le fameux RGPD censé protéger nos données. Expliquez-nous peut-être d'abord comment ça fonctionne. Est-ce que c'est concrètement ce RGPD?
Alors c'est un règlement européen qui a été adopté par la Commission européenne en 2013, si mes souvenirs sont bons. Alors c'est un règlement c'est son avantage, c'est qu'il s'applique à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Et ce règlement règlement impose à tout service, tout site qui récupère nos données personnelles, nos noms, nos prénoms et plus, hein, de nous en informer, de nous dire qu'ils les récupèrent et à nous de leur dire si on est d'accord ou pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur les sites, quand vous l'ouvrez, vous avez un bandeau. Alors, bon, des fois, le bandeau est tout petit. Oui. Des fois, les boutons, on parlait des boutons tout à l'heure, sont un peu cachés, on les voit pas et puis c'est un petit peu compliqué. Mais il faut savoir que ce règlement, il est hyper important. On peut penser que ça va pas assez loin, mais en Europe, on est les seuls au monde à s'être protégés de l'extraction de nos données via ce règlement.
Mais comme beaucoup, par exemple, moi, je clique sur oui parce que je suis un peu pressé, j'ai pas envie de cocher d'autres cases. Et on est beaucoup à être comme ça, de dire oui, d'accepter oui.
Oui, alors bon, bah c'est vrai, mais
c'est mon problème.
Alors, la CNIL, non, la CNIL travaille beaucoup à ce niveau-là. C'est la question du consentement, en fait. Hein, oui. C'est-à-dire que normalement, il faudrait que le bouton refusé soit de la même taille, exactement pareil, à côté du bouton accepté. Après, ce que je voudrais rajouter sur la RGPD, la RGPD change véritablement et apporte, c'est que jusque-là, il n'y avait pas vraiment de statut quant à nos données personnelles et sur le fait qu'elles pouvaient être commercialisées. Et on disait, après tout, si vous utilisez Google, eh bien, c'est qu'elles appartiennent à Google. Ce que la RGPD apporte, c'est de dire vos données sont personnelles, la propriétaire des données, c'est la personne qui génère ces données. Donc ça, c'est quand même un changement radical vis-à-vis de notre position avec les données, et on peut espérer que ça va engager de plus en plus ces entreprises à nous respecter.
Alors, dans quelques instants, vous nous délivrerez vos conseils de base, quelques conseils d'autodéfense numérique. En attendant, il est temps de retrouver la chronique Pas son genre de Julia Foyce.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Un garçon ou une fille?
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon?
T'as menti?
Bah oui. Mais moi, j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et je réclame le droit de vivre, voilà.
Bonjour Julia Foyce.
Bonjour Ali, bonjour tout le monde.
Oh oui. Vous nous proposez un quiz ce matin?
Oui, j'ai décidé d'œuvrer pour le lien intergénérationnel. Hein. Enfin, en même temps, ça dépend. Si comme moi, vous pensez toujours qu'il a suffi que vos parents se regardent droit dans les yeux pour que moyennement quelques péripéties d'ordre gynécologique vous arriviez 9 mois plus tard, bouchez-vous les oreilles, ça peut piquer. Si, pur produit de la Startup Nation, vous avez tendance à préférer voir végéter les seniors dans un placard que de s'éclater dans un lupanar, et si en plus vous êtes doté d'un vague substrat judéo-chrétien qui fait donc qu'au fond, tout au fond de vous, vous avez encore un tout petit peu de mal à dissocier sexualité et procréation, arrêtez tout, la radio, la bagnole, le cerveau, tout. C'est bon les autres, on va pouvoir y aller? Ouais, on y va. Alors, on vous rappellera en préambule que l'espérance de vie s'est légèrement allongée ces 50 dernières années, que le divorce existe et qu'il s'est même multiplié par 9 sur cette même période chez les seniors, que donc ils sont un bon paquet à vouloir en profiter. Ceci posé, voici donc cette étude produite par Terre des Seniors, premier site visité par les plus de 60 ans et qui revendique une communauté de 2 millions de membres. Partons de là, voici donc Ali, un petit quiz intégralement produit par ma pomme qui revendique, elle, un certain nombre de membres à l'intérieur de sa personne.
Bien. Et nos invités participent.
Mais évidemment.
Ok.
Évidemment. Question numéro 1. Passé l'âge de la retraite, quelle est la fréquence moyenne des rapports sexuels? Une fois par mois, 3 fois par an, 3 fois par semaine?
Alors ça tombe bien, j'ai pas passé l'âge de la retraite. Donc,
mais vous pouvez imaginer.
Je dirais, je l'espère, par mois, vous avez dit?
Alors, une fois par mois, 3 fois par an, 3 fois par semaine?
Oh. Allez, par mois, 3 fois par mois.
Mais non, mais c'est bien plus que ça, c'est 3 fois par semaine pour un senior sur 3, contre 2,6 rapports par semaine pour la moyenne des Français. Ah même ouais. Si de vous à moi, j'ai jamais bien compris ce qu'on fait exactement quand on a 0,6 rapports sexuels. Mais bref, nous voici donc coiffés au poteau de la galipette, ils n'ont plus que ça à foutre. Peut-être, mais moi dans ces cas-là, je veux bien être à la retraite. Allez, deuxième question. Où les seniors font-ils l'amour préférablement? Est-ce qu'on est plutôt porte cochère ou lit pépère à votre avis?
Porte cochère.
Ah ah, coquin. Une autre
ouais,
réponse
Porte-cochère.
Et ben en fait partout, hein. Le lit, la cuisine, le salon, la salle de bain, ils prennent tous les coquins. Ah bah forcément, plus d'espions dans la maison, alors yalla. D'ailleurs, si ça se trouve, la dernière fois que vous êtes venu leur rendre visite, vous vous souvenez le fauteuil là, près du feu, où vous vous êtes calé pour faire la sieste? Et ben juste avant, paf. D'où ma troisième question, quand font-ils l'amour? Matin, midi, soir?
Bon bah
quand,
tout le temps en
tout
fait.
Le temps.
Mais exactement, vous avez parfaitement compris, chaque instant est le moment parfait, répondent les seniors interrogés. Logique, moins de contraintes horaires, ça nous facilite la spontanéité de la culbute. Hein. Alors, on a quand même une préférence sur la journée, s'il faut choisir, parce que le soir, ils regardent la télé. Ouais, des films érotiques pour 42% d'entre eux.
Ah oui, quand même.
Wow. Si, si. C'est qu'ils sont très très connectés, nos seniors, aujourd'hui. D'ailleurs, où se rencontrent-ils préférablement? Alors non, pas forcément dans le hall de l'EHPAD, encore que ça puisse être rigolo.
Mais sur les applis?
Oui, et bah sur Internet. Comme tout le monde, hein, 53% d'entre eux sont inscrits sur des sites de rencontres et les utilisent régulièrement, contre un Français sur 5, tout âge confondu. 10% des seniors y ont déjà vécu une belle histoire. Alors, à votre avis, pourquoi ils vous ont demandé un partage de connexion, hein, la dernière fois que vous les avez vus? Voilà. Vrai ou faux, le corps vieillit, le désir aussi.
Je ne vais plus regarder ma mère du même œil. Hein.
Oui, je pense qu'elle va faire mal à un certain nombre de personnes.
Alors ça, c'est totalement faux.
Ouais. Exactement. Avouez que la perspective est pour nous assez réjouissante. Un seigneur sur deux éprouve toujours autant de désir. Et pour 13% d'entre eux, même, il augmente avec les années. Et pourquoi? Eh ben parce qu'on leur fout la paix. Puisqu'on considère, nous tous, que globalement, ces choses-là ne sont plus de leur âge. Ils ne ressentent plus, disent-ils, d'injonction à la performance. Zéro pression non plus sur la question des enfants. Elles sont très nombreuses à se dire bien plus libérées sexuellement depuis la ménopause, depuis qu'elles ne risquent plus de se retrouver enceintes. Cela dit, on fait gaffe quand même. Hein, on se rappelle qu'en septembre dernier, une Indienne de 74 ans a donné naissance à deux jumeaux. Enfin bon, me direz-vous, ne nous prenez pas pour des quiches, Julia, l'amour, ça n'est pas que dans la tête. Le corps, ça vieillit, ça ramollit, ça se rouille et ça s'assèche. Et c'est sûr que dire comme ça, ça fait moyennement rêver.
Oui.
Mais donc, plutôt sextoys ou plutôt Viagra, les seniors?
Sextoy.
Oh, ouais, je dirais les deux.
Et ben, sachez que 74% des seniors n'ont pas recours au Viagra, dont ils craignent les effets indésirables. Un sur deux, en revanche, est adepte des sextoys, d'après un sondage IFOP, contre 58% des 25-34 ans, donc on n'en est pas très loin. La senior sexitude est en train de devenir un marché, d'où l'essor de films X qui leur sont spécifiquement dédiés. Et notamment au Japon, bah oui, la population vieillit, donc on s'adapte, le public est là, donc on produit et on se tarifie. Aussi. Prenez Shigeo Tokuda, par exemple. À 73 ans, cet ancien agent de voyage a déjà tourné dans 200 films X. Et pourquoi? Et ben parce qu'à la retraite, explique-t-il, il ne savait plus trop quoi faire de ses journées. Alors moi, je ne sais pas vous, mais entre garder les gosses des autres ou suivre la carrière de Shigeo Tokuda, j'ai déjà choisi. Hein.
À propos de sextoy, on en trouve partout. J'en ai trouvé la semaine dernière.
Dans le fond de votre tiroir.
Mais non, au Monoprix.
Oui,
c'est étonnant.
Ils font ça, c'est ça. C'est une forme de banalisation. Attention à ne pas basculer dans l'injonction. Ce sera la petite minute sagesse de cette chronique.
Allez, vous pouvez réagir à la chronique de Julia Foyce sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Le programme de Passons Genre, l'émission demain à 20h.
Ah bah les Césars, évidemment. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'après, on va quand même avoir nominé également Adèle Haenel et Roman Polanski. Donc on s'attend à un cru un petit peu mouvementé. Ce qui me réjouit,
demain
évidemment.
À 20h. Et demain, nous vous attendons nombreux au stand de Radio France, Porte de Versailles, Hall 1, pour une émission en direct du Salon de l'Agriculture. Venez dès 9h45. Dans quelques instants, nos invités vous délivrent quelques conseils d'autodéfense numérique. You can be who you wanna be, but rather be myself for real. No pretending or faking me, cause getting out this shell is real. I don't know where I'm headed next, but man, I can't even fake no more. Surrounded by lies and bullshit, nigga, I can't even take no more. See, I woke up having a bad day, and I gotta get the dollar any fast way. Cause a nigga growing up never had shit. I was acting way too passive. I've been up and down, round and round, trying to find my way back home. Gone too long, drowning now, still gonna play that song. Okay, 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 Annie, are you right? Never got that text back from the other night. Let me tell you something that I really know. I was down bad upon my ass, I had to glow. Okay, sometimes I know I'm there wrong, so I just put it all in these songs. Shit, I'm still just finding myself about it, it's all, nigga. Wish me well, Jezebel, get out of my sight. I excel and I sell shows out for the night. You can be who you wanna be, but rather be myself for real. No pretending, no faking me, cause getting out this shell is real. I don't know where I'm headed next, but man, I can't even fake no more. Surrounded by lies and bullshit, nigga, I can't even take no more. See, I woke up having a bad day, and I gotta get the dollar any fast way. Cause a nigga growing up never had shit. I was acting way too passive. I've been up and down, round and round, trying to find my way back home. Gone too long, drowning now, still gonna play that song. Trying to find my way back home. I've been gone 8 months out the year so far. Made a wrong turn on a dark road on my way back. Crossed through a couple toll roads, had to pay tax. Back and forth, I've been forth and back. Had to get it back, had to bring it back. Shit so different now, I had to readjust. Ain't too many people that I could trust. Keep to myself, ayy. Spend this shit all on myself. Where would I be without self? Look in the mirror like, boy, you look good. Yeah, that's why I had to big up myself. I'm doing me, you should do you. Fuck everybody else. Don't need nobody else.
can be who you wanna be, but rather be myself for real. No pretending, no faking me, cause getting out this shell is real. I don't know where I'm headed next, but man, I can't even fake no more. Surrounded by lies and bullshit, nigga, I can't even take no more. See, I woke up having a bad day, and I gotta get the dollar any fast way, cause a nigga growing up never had shit. I was acting way too passive. I've been up and down, round and round, trying to find my way back home. Gone too long, drowning now, still gonna play that song.
Et on vient d'écouter le rappeur YBN Corday.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h46, comment se défendre face aux géants d'Internet, les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, toutes vos questions au 01 45 24 7000. Maxime Guedge, Anne-Sophie Jacques, je rappelle que vous publiez aux arènes Déclic. L'une des clés pour reprendre le pouvoir face à ces géants du web, c'est peut-être de basculer vers le logiciel libre. Expliquez-nous comment ça fonctionne. C'est l'équivalent d'une recette de cuisine en accès libre où chacun peut améliorer la recette, c'est un peu ça?
Oui, on est. Alors c'est-à-dire que si vous voulez un logiciel, quand il est exécuté par un ordinateur, on ne peut pas véritablement savoir comment il est, quelle est sa recette en fait. Hein. C'est comme voilà, on parlait de plat préparé, on peut pas remonter à la recette. La différence avec un logiciel libre, c'est que son code source, c'est-à-dire les instructions qui ont été écrites par des développeurs, des développeuses pour faire fonctionner ce logiciel, est public. Donc on peut inspecter comment fonctionne ce logiciel et s'assurer qu'à l'intérieur il n'y a pas de mouchard ou de choses qui n'iraient pas dans le sens de l'usager. L'autre chose que ça apporte, c'est qu'on peut le modifier, ce logiciel, donc on peut l'adapter à nos propres besoins. Il y a un exemple qu'on évoque dans le livre qui est particulièrement intéressant de ce point de vue, c'est une femme qui a un pacemaker, et donc aujourd'hui, parce qu'il faut se rappeler que on a des logiciels partout, c'est pas que dans nos téléphones, c'est aussi dans plein de dispositifs. Et donc cette femme a un pacemaker, elle était enceinte, elle avait des, et donc elle a eu des palpitations et ça faisait fonctionner son pacemaker de manière d'une mauvaise manière. En fait, ça l'activait alors qu'il ne fallait pas. Elle a contacté l'industriel qui faisait ce pacemaker pour lui indiquer qu'il y avait ce problème. Simplement, il ne voulait pas changer le logiciel puisque ce n'était pas forcément rentable de s'intéresser à juste cette petite part de la population, ce cas extrême. Si le logiciel de ce pacemaker avait été libre, eh bien, elle aurait pu, soit elle-même ou bien avec des développeurs ou des développeuses, le modifier pour l'adapter à son cas particulier. Même d'un point de vue respect de l'environnement, c'est aussi intéressant puisque ça peut permettre de lutter contre l'obsolescence programmée, puisqu'on sait qu'il y a des logiciels, par exemple Microsoft Windows 10, Microsoft a annoncé dernièrement qu'il ne maintiendrait plus les prochaines mises à jour, ce qui laisse tout un tas de personnes bloquées avec ce logiciel et donc soumis à devoir faire une mise à jour. Eh bien, si le logiciel était ouvert, là aussi, donc c'est le cas de Linux dont on parle dans le livre, eh bien, on pourrait avoir des personnes qui pourraient continuer de l'améliorer, de le modifier pour garder ce logiciel utilisable, même si on a une ancienne machine.
Julia Foyce.
Ah non, moi je suis fascinée par tout ça parce que de toute façon à partir du moment où on rentre dans ce monde des alors les réseaux sociaux ça va encore, mais dès que ça devient un petit peu technologique, mon cerveau se met à la fois en apnée et en admiration, donc j'écoute et je bois.
Qu'est-ce que l'open source, Maxime Guedge?
Alors l'open source est arrivé
c'est aussi un moyen de rééquilibrer ses forces face aux géants du web.
Oui, hein. Alors l'open source s'inspire beaucoup de l'éthique des logiciels libres, hein, qui a démarré avec Richard Stallman. Et donc l'open source a été une manière de, si vous voulez, de récupérer l'intérêt que les industriels ont découvert vis-à-vis de l'ouverture de cette source, puisque ça permet de maintenir le code par des équipes qui sont aussi bénévoles, etc. Donc il y a tout un intérêt économique finalement à développer des logiciels avec une source ouverte. La différence, c'est que l'open source va permettre certaines méthodes de commercialisation que le logiciel libre n'autorise pas. Et donc le logiciel libre participe vraiment à créer du commun. Si vous voulez, quand on fait un logiciel libre, il faut le garder ouvert. Et à l'intérieur de cette licence-là, si vous vous modifiez ce logiciel, y compris si vous en faites un logiciel commercial, vous vous engagez à le garder ouvert. Cet engagement ne s'applique pas forcément avec l'open source.
Un exemple concret ?
Eh bien, un exemple concret, c'est par exemple... par exemple Facebook, enfin Google, etc. utilisent énormément de technologies open source, mais comme elles sont open source, ils vont pouvoir derrière les réencapsuler, les refermer dans des interfaces et des programmes qui eux-mêmes sont fermés. Ce qui fait que nous, on n'a pas accès au code source de Facebook. Par contre, ça ne les empêche pas, à l'intérieur du fonctionnement de Facebook, d'utiliser ce type de technologie ouverte.
Écoutons Pierre-Yves Gosset, directeur de l'association Framasoft, militant du logiciel libre.
Ce qu'on veut, c'est construire et coproduire des logiciels libres au service de la société de contribution. Si vous voulez développer des biens communs, il faut être prêt à y participer. C'est une société de l'effort. C'est évident. C'est pas ce qui nous est vendu, évidemment, en face. On est plutôt dans une société du confort avec la société de surconsommation. La société de contribution est une société de l'effort qui va nécessiter de prendre du temps, de prendre sur soi, de mettre de l'énergie dans le maintien et le développement de ces biens communs. Il est difficile aujourd'hui, quand on regarde cette société de la surconsommation, de se dire qu'elle a un avenir d'égalité et de fraternité pour beaucoup de gens. Dans 5 ans, dans 10 ans, si jamais on ne développe pas le logiciel libre, on aura quoi ? On aura un Google Internet sur lequel vous pourrez consommer des vidéos, sur lequel vous pourrez publier des contenus, mais tous ces contenus seront validés, monétisés, et on va vous encourager à produire des contenus qui n'existent pas ou qui ne sortent pas trop du cadre.
Extrait du documentaire Internet ou la révolution du partage de Philippe Borel, diffusé en 2019. J'aimerais que vous partagiez quelques conseils d'autodéfense numérique. Tiens, le mot de passe d'abord peut-être, Maxime Gage. Dans la partie pratique de votre livre.
Oui,
la
alors partie. C'est vrai qu'on a tendance avec les mots de passe à entrer des mots de passe qui sont très réduits en termes de taille et donc qui vont être facilement cassables. De ce point de vue, il est une des choses qui est les plus importantes, c'est d'avoir un mot de passe qui va être différent sur chaque plateforme où. C'est compliqué. Je suis d'accord que c'est compliqué. Alors il y a un logiciel dont on parle qui peut vous aider à les mémoriser, ou bien il y a une autre technique, c'est-à-dire que vous pouvez retenir par exemple un mot de passe qui est assez long, qui est assez compliqué, et à l'intérieur de ce mot de passe, vous pouvez avoir une partie que vous allez mettons changer en fonction de l'URL du site sur lequel vous êtes. Comme ça, il n'y a pas besoin de retenir.
Vous voulez ma mort psychique?
Non, en l'occurrence, c'est pas moi. Par contre, il y en a d'autres qui s'intéressent à vous surveiller.
Ouais, mais Pierre-Yves Gosset, qu'on a entendu à l'instant, dit une chose qui est capitale, c'est que effectivement, il va falloir faire un effort. Ouais. Tout à l'heure, Ali, vous nous disiez que vous preniez pas le temps d'appuyer
pas toujours,
sur le bouton. Non, non, mais on est d'accord. Moi, je veux pas du tout vous culpabiliser. On est beaucoup à le faire. Alors vous nous demandez quelles sont les alternatives. J'en ai une pour vous, puisque on ne clique pas toujours sur ce bouton-là. On peut installer comme navigateur sur son ordinateur un navigateur qui s'appelle Firefox, qui est un navigateur libre. Et lui offre des extensions, dont une qui s'appelle uBlock. uBlock Origin, on en parle dans le livre. C'est vraiment très facile. Je vous regarde.
En trois clics,
c'est fait. Et avec cet outil-là, empêcher les pisteurs de vous pister. Donc, vous n'avez même plus besoin de cliquer sur le oui, sur le non. Tous les sites, de toute façon, tous les pisteurs qui sont sur les sites seront totalement bloqués. Mmh. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand on l'installe, on voit des chiffres apparaître. On dit qu'est-ce que ce sont ces chiffres. On les regarde et on voit toutes les régies publicitaires qui ont accès à ce que nous, on fait sur ce site. Mais ça peut être le site de Météo France, ça peut être le site du Monde, ça peut être tous les sites en fait. Donc là, on les bloque avec ce petit outil qui est assez fabuleux.
Comment naviguer de façon anonyme ?
Alors là, c'est plus compliqué. Dans le livre, on a toute une partie effectivement sur les outils qui nous permettent de naviguer sans se faire repérer. Alors je sais pas, Maxime, peut-être que on pourrait toucher un mot des VPN.
Voilà. C'est quoi ça, un VPN ?
Alors un VPN, si vous voulez, c'est un serveur intermédiaire auquel, alors un serveur, une machine intermédiaire à laquelle vous allez vous connecter et qui va vous amener le site que vous souhaitez regarder. Et l'intérêt, c'est que le lien entre vous et cette machine est chiffré. Donc quand votre opérateur Free ou autre, vous essayez de vous connecter, je ne sais pas, mettons donc DuckDuckGo, qui est une alternative, un moteur de recherche alternatif à Google, si vous y allez directement, donc votre opérateur voit la requête passer dans ces tuyaux et sait que vous accédez à ce site. Si vous utilisez un VPN, il va juste voir que vous vous connectez à une machine qui est toujours la même, mais il ne saura pas ce que vous faites vis-à-vis de cette machine.
C'est un peu comme si vous aviez envie de manger plein de pizzas, mais vous n'osez plus aller à la pizzeria le soir parce qu'on vous a repéré, on sait que vous venez tous les soirs et que vous demandez à une tierce personne d'aller l'acheter pour vous, elle va l'acheter et comme ça vous êtes tranquille, vous pouvez manger votre pizza et personne ne vous embêtera.
J'ai tout compris. Quelle messagerie instantanée vous conseillez ?
Alors nous dans le livre, on conseille la messagerie Signal.
Pourquoi ?
Parce que c'est une messagerie qui est, quand on s'envoie des messages, tous les messages sont cryptés. Déjà, c'est une bonne chose. Et c'est une messagerie qui s'engage également à ne pas utiliser la façon dont on navigue. Donc, ils ne réutilisent pas le fait de savoir si on a envoyé des photos, des vidéos. voilà. si vous voyez de quoi je veux parler.
Non, pas du tout.
Non.
Quel moteur de recherche conseillez-vous?
Alors, tout à l'heure, Maxime a évoqué le moteur de recherche DuckDuckGo, qui est effectivement aujourd'hui un des plus performants, qui est une super alternative à Google. Mais il y en a plein d'autres qui sont cités dans le livre.
Alors, Cirque, oui. Cirque. Alors, Cirque, c'est autre chose, mais c'est également un moteur de
recherche.
C'est
autre chose, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que là, vous êtes complètement indépendant. Là où vous avez DuckDuckGo ou Quant, qui fonctionnent sur des machines qui ne nous appartiennent pas, qui sont à une entreprise, donc il peut toujours y avoir quelque part un risque de se dire qu'est-ce qu'ils font avec ces recherches. Eh bien, Cirque, c'est un moteur, c'est un logiciel qu'on peut installer soi-même sur sa propre machine ou le faire installer sur une machine de quelqu'un qui s'y connaît. Et ce logiciel va, c'est ce qu'on appelle un métamoteur, donc il va chercher de manière anonyme sur tous les autres moteurs, Google, etc., en vous permettant de garder, vous, l'anonymat.
Vous conseillez également dans votre livre de ne plus recevoir de notifications sur son smartphone, par exemple.
Oui, parce que on parle des outils, mais il y a aussi une façon de vivre et de comportement à avoir. Donc effectivement, par exemple, si on est un peu accro aux réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est votre cas.
Je ne suis pas sur les réseaux sociaux.
Eh bien, on peut.
Je ne suis accro de rien.
On peut aussi, par exemple, supprimer l'application de Facebook ou de Twitter de notre téléphone, ce qui déjà nous évite de le regarder. Quand on fait la queue 5 minutes à la boulangerie. Et puis effectivement, on peut aussi décider de ne pas recevoir les notifications qui nous captent notre attention, qui font qu'on est moins disponible pour le reste.
Question très intéressante qu'on vient de recevoir. Si j'ai coché oui pour mon consentement à l'utilisation des données, puis-je revenir sur ma décision ?
Oui, bien sûr. Je crois que dans les paramètres, il y a toujours la possibilité. Alors après, voilà, c'est un petit peu les limites, c'est que on peut toujours revenir. Mais alors avant de trouver la page qui nous permette de changer et de refaire un choix différent, c'est pas toujours simple. Et on invite les sites aussi à être un petit peu plus en conformité avec le règlement européen, le RGPD, pour faire en sorte que le consentement soit un vrai consentement.
Marie nous dit, se passer des GAFAM, c'est presque possible. J'ai un iPhone, mais au quotidien, j'ai réussi à me passer de Google. J'ai fermé mes comptes Facebook, Instagram, WhatsApp. J'utilise Signal à la place. J'ai arrêté Amazon. C'est un processus qui s'est fait sur environ 2 ans. Je ne suis absolument pas bloqué dans ma vie quotidienne numérique et j'ai toujours des amis.
Non, mais ce qui est dingue, c'est que non seulement on n'est pas bloqué, alors c'est vrai que c'est long, il faut se déshabituer, c'est pas facile, c'est pas confortable de changer nos habitudes, mais on se rend compte qu'on récupère énormément de temps et qu'on en profite pour faire autre chose.
Je recommande votre livre, qui est également un guide. Merci Anne-Sophie Jacques et Maxime Gedge. Déclic, comment profiter du numérique sans tomber dans le piège des géants du web. C'est publié aux Arènes. Merci d'être venu ce matin. Demain, nous serons donc en direct du Salon de l'Agriculture. Venez nombreux dès 9h45, porte de Versailles. Nous évoquerons les plaisirs de la pomme de terre. Nous attendons Hall 1, stand B006. Venez nombreux à la technique ce matin. Patrick Henry et Elisabeth Collet, voilà.